Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 2, chapitre 3. Sommaire. Des causes, de leur nombre et de leur nature, quatre espèces de causes. La matière, la forme, le mouvement et la fin, ou le pourquoi des choses. Modes divers des causes. Une même chose peut avoir plusieurs causes. Il y a des choses qui sont réciproquement causes les unes des autres. Causalité des contraires. Acceptions propres et accidentelles du mot de cause. Cause en acte et en puissance. Cause individuelle. Cause générique. Méthode à suivre dans l'étude des causes. Paragraphe 1. Après les explications précédentes, nous devons étudier les causes pour en déterminer les espèces et le nombre. Comme ce traité, en effet, a pour objet de faire connaître la nature et qu'on ne croit connaître une chose que quand on sait le pourquoi, en d'autres termes, la première cause, il est clair que nous aussi, nous devons faire cette étude en ce qui regarde la génération et la destruction des choses, c'est-à-dire tout changement naturel, afin qu'une fois que nous connaîtrons les principes de ces phénomènes, nous puissions essayer de rapporter à ces principes tous les problèmes que nous agitons. Paragraphe 2. D'abord, en un premier sens, on appelle cause ce qui est dans une chose et ce dont elle provient. Ainsi, l'airain est en ce sens la cause de la statue. L'argent est la cause de la burette, ainsi que tous les genres de ces deux choses. Paragraphe 3. En un autre sens, la cause est la forme et le modèle des choses, c'est-à-dire la notion qui détermine l'essence de la chose et tous ses genres supérieurs. Par exemple, en musique, la cause de l'octave est le rapport de 2 à 1. Et d'une manière générale, c'est le nombre et les éléments de la définition essentielle du nombre. Paragraphe 4. Dans une troisième acception, la cause est le principe premier d'où vient le mouvement ou le repos. Ainsi, celui qui a donné le conseil d'agir est cause des actes qui ont été accomplis. Le père est la cause de son enfant. Et en général, ce qui fait est la cause de ce qui est fait. Ce qui produit le changement est cause du changement produit. Paragraphe 5. En dernier lieu, la cause signifie la fin, le but, et c'est alors le pourquoi de la chose. Ainsi, la santé est la cause de la promenade. Pourquoi un tel se promène-t-il? C'est, répondons-nous, pour conserver sa santé. Et en faisant cette réponse, nous croyons indiquer la cause qui fait qu'il se promène. C'est en ce sens aussi qu'on appelle cause tous les intermédiaires qui contribuent à atteindre la fin poursuivie, après qu'une autre chose a eu commencé le mouvement. Par exemple, la diète et la purgation sont les causes intermédiaires de la santé, comme le sont aussi les remèdes ou les instruments du chirurgien. En effet, tout cela concourt à la fin qu'on se propose. Et la seule différence entre toutes ces choses, c'est que les unes sont des actes et les autres de simples moyens. Paragraphe 6. Voilà donc à peu près toutes les acceptions du mot de cause. Paragraphe 7. Par suite de ces diversités de sens, il peut se faire qu'une même chose ait plusieurs causes, sans que ce soit même indirectement et par accident. Ainsi, pour la statue, c'est à la fois l'art du statuaire et les reins qui en sont cause, non pas sous un autre rapport, mais en tant que statue. Seulement, ce n'est pas de la même façon, car l'une de ces causes est prise comme matière et l'autre comme le principe d'où part le mouvement. Paragraphe 8. Il y a en outre des choses qui sont réciproquement causes les unes des autres. Ainsi, l'exercice est cause de la santé, et la santé, à son tour, cause l'exercice. Mais ce n'est pas de la même façon, car ici, la cause est considérée comme fin, et là comme principe de mouvement. Paragraphe 9. C'est précisément ainsi qu'une seule et même chose est cause des contraires, car le même objet qui, étant présent, est cause de tel effet, est aussi quelquefois considéré par nous, quand il est absent, comme cause de l'effet contraire. Ainsi, l'absence du pilote est considérée comme cause de la perte du navire, parce que la présence de ce même pilote est considérée comme la cause du salut. Paragraphe 10. Toutes les causes dont nous venons de parler peuvent donc être ramenées à quatre classes qui sont les plus évidentes de toutes. Ainsi, les lettres sont causes des syllabes. La matière est cause de ce que l'art fabrique. Le feu et les éléments analogues sont causes du corps. Les parties sont causes du tout. Les propositions sont causes de la conclusion. Et ce sont là des causes en tant que c'est ce dont vient la chose. De toutes ces causes, les unes sont prises comme le sujet de la chose et telles sont les parties relativement au tout. Les autres sont prises comme l'essence, et telles sont le total, la combinaison et la forme. Mais le germe, le médecin, le conseiller, et d'une façon générale, l'agent, sont autant de causes d'où vient le principe du changement, soit mouvement, soit repos. Et la dernière classe de causes est celle où la cause est prise comme la fin et le bien de tout le reste. Car le pourquoi a droit d'être regardé comme ce qu'il y a de meilleur dans les choses et comme la fin de tout ce qui s'y rapporte. Ce ne fait rien d'ailleurs que ce soit réellement le bien ou simplement ce qui paraît le bien. Telle est donc la nature des causes et tel en est spécifiquement le nombre. Paragraphe 11. Les modes des causes peuvent sembler très multipliés, mais on peut aussi les réduire en les résumant. En effet, le mot de cause peut avoir plusieurs acceptions diverses, et ainsi, même dans des causes d'espèces pareilles, l'une peut être antérieure ou postérieure à l'autre. C'est en ce sens que le médecin et l'homme de l'art sont causes de la santé. C'est le double et le nombre qui sont les causes de l'octave en fait d'harmonie. Et d'une manière générale, les contenant par rapport à tous les objets particuliers qu'ils embrassent. Paragraphe 12. Parfois, les causes et leurs différents genres peuvent être considérées aussi comme agissant indirectement et par accident. Ainsi, c'est autrement que Polyclète est cause de la statue, et autrement que le statuaire en est cause. Car Polyclète ne peut être dit la cause de la statue qu'en tant que c'est un accident du statuaire d'être Polyclète. On appelle aussi cause en ce sens les genres qui renferment et impliquent l'accident. Par exemple, on pourrait dire que c'est l'homme qui est cause de la statue, ou même, d'une manière encore plus générale, que c'est l'être vivant. Paragraphe 13. Il y a en effet des accidents qui sont plus éloignés ou plus rapprochés les uns que les autres, comme si l'on allait, par exemple, jusqu'à dire que c'est l'homme blanc ou bien l'homme disciple des muses qui est la cause de la statue. Paragraphe 14. Après toutes ces acceptions de l'idée de cause, soit propre, soit accidentelle ou indirecte, il faut encore distinguer les causes qui peuvent agir et celles qui agissent en effet. Ainsi, la cause de la construction de la maison, c'est ou le maçon qui pourrait la construire ou le maçon qui la construit réellement. Paragraphe 15. Ces dispositions de causes que nous venons d'énumérer devront s'appliquer également aux effets dont elles sont les causes. Et par exemple, on peut distinguer et cette statue qu'on a sous les yeux ou la statue en général, ou même plus généralement encore l'image, ou bien encore cet airain qu'on a là sous la main ou l'airain en général, ou plus généralement encore la matière. Même remarque en ce qui concerne les accidents de ces effets. Paragraphe 16. Enfin, on peut même encore réunir ces diverses espèces de causes. Et au lieu de considérer à part Polyclète, puis le statuaire, on peut dire le statuaire Polyclète. Paragraphe 17. Quoi qu'il en soit, toutes ces nuances sont au nombre de 6. Et elles sont chacune susceptibles de 2 sens divers. Soit au point de vue de la cause même, soit au point de vue de son genre, soit comme accident, soit comme genre de l'accident, soit combiné, soit absolu et isolé dans les mots qui les expriment. Enfin, toutes peuvent être distinguées soit comme étant en acte réellement, soit comme étant en simple puissance. Paragraphe 18. La seule différence, c'est que les causes en acte et les causes particulières sont ou ne sont pas en même temps que les choses dont elles sont causes. Par exemple, ce médecin particulier qui guérit existe en même temps que le malade particulier qu'il soigne. Ce constructeur particulier existe en même temps que cette maison particulière qu'il construit. Quant aux causes en puissance, elles ne sont pas toujours contemporaines à leurs effets. Et par exemple, la maison et le maçon ne périssent pas en même temps. Paragraphe 19. Il faut toujours, en recherchant la cause d'une chose quelconque, remonter aussi haut que possible, comme dans toute autre recherche. Par exemple, l'homme construit la maison parce qu'il est constructeur. Il est constructeur en se conformant à l'art de la construction. Cet art se trouve donc être la première cause, la cause antérieure, et ainsi de tout le reste. Paragraphe 20. Il faut remarquer en outre que les genres sont causes des genres et que les individus sont causes des choses individuelles. Ainsi, le statutaire est génériquement la cause de la statue, mais c'est tel individu statuaire qui est cause de tel statut spécial. Les causes en puissance sont causes des choses en puissance, et les causes en acte causent des choses en acte. Paragraphe 21. Telles sont les considérations que nous avions à présenter sur le nombre des causes et sur leurs nuances. Chapitre 4. Sommaire. du hasard et de la spontanéité. Théories diverses sur le hasard. Les unes le nient positivement et les anciens sages ne l'ont pas admis dans leur système. Les autres, et parmi eux Empédocle, admettent le hasard comme cause du ciel et des phénomènes du monde, tout en ne le reconnaissant point pour cause des animaux et des plantes. D'autres théories font du hasard quelque chose de divin qui est au-dessus de l'homme. Paragraphe 1. Parfois aussi, on met le hasard et la spontanéité au rang des causes, et l'on dit de bien des choses qu'elles sont produites ou qu'elles existent d'une manière spontanée et par hasard. Examinons donc de quelle façon il est possible de placer parmi les causes énumérées par nous le hasard et le spontané. Examinons de plus si fortune et spontanéité sont la même chose ou des choses différentes, en un mot, ce que c'est que spontanéité et hasard. Paragraphe 2. Il y a des philosophes qui révoquent en doute l'existence du hasard et qui soutiennent que rien ne se produit jamais par hasard, attendu que toutes les choses qu'on prend pour l'effet du hasard et qu'on croit spontanées ont toujours une cause déterminée. Ainsi, disent-ils, quelqu'un va par hasard au marché et il y rencontre une personne qu'il voulait joindre mais qu'il ne pensait pas trouver là. Or, la cause de ce prétendu hasard, c'est la volonté qu'on avait d'aller au marché acheter quelque emplette. De même, pour tous les autres cas qu'on attribue au hasard et en y regardant de près, on y découvre toujours une cause qui n'est pas du tout le hasard qu'on suppose. Paragraphe 3. On ajoute que si, en effet, le hasard était quelque chose de si réel, il serait vraiment par trop étrange et tout à fait incroyable qu'aucun des anciens sages, en étudiant les causes de la production et de la destruction des choses, n'en eût pas dit un seul mot, et l'on en conclut que ces sages étaient persuadés aussi que rien ne vient du hasard. Paragraphe 4. Cependant, ce silence même est fait pour étonner, car il y a une foule de choses qui se produisent et qui sont par l'effet du hasard et spontanément. Et bien qu'on n'ignore pas qu'on peut les rapporter chacune à quelqu'une des causes ordinaires, comme le veut cette maxime de la sagesse antique qui nie le hasard, cependant, tout le monde n'en dit pas moins que certaines choses viennent du hasard et que d'autres n'en viennent pas. Paragraphe 5. Il fallait donc que d'une façon ou d'une autre, les sages dont nous venons de parler fissent mention de ces doutes, et parmi eux pourtant, personne n'a cru que le hasard fût un de ses principes. Par exemple, ou l'amour, ou la haine, ou le feu, ou l'intelligence, ou quelque autre principe analogue. Il est donc bien étrange que les sages n'aient pas admis le hasard, ou s'ils le reconnaissaient, qu'ils l'aient si complètement passé sous silence. Paragraphe 6. Plus d'une fois cependant, ils en ont fait usage, et c'est ainsi qu'Empédocle prétend que l'air ne se secrète pas toujours dans la partie la plus haute du ciel, mais qu'il se secrète au hasard, selon que ça se trouve. Dans sa cosmogonie, il dit en propres termes « L'air, alors, court ainsi, mais parfois autrement. » Il dit encore que les parties des animaux sont presque toutes le produit d'un simple hasard. Paragraphe 7. Il y en a d'autres qui rapportent le ciel tel que nous le voyons et tous les phénomènes cosmiques à une cause toute spontanée. Selon eux, c'est le hasard qui a produit la rotation, ainsi que le mouvement qui a divisé les éléments et combiné l'univers entier, selon l'ordre où il est aujourd'hui. Paragraphe 8. Mais c'est ici qu'il y a vraiment de quoi s'étonner, car on soutient que les animaux et les plantes ne doivent point leur existence et leur reproduction au hasard, et que la cause qui les engendre est ou la nature ou l'intelligence, ou tel autre principe non moins relevé, attendu que la première chose venue ne naît pas fortuitement d'un germe quelconque, mais que de tel germe c'est un olivier qui sort, tandis que de tel autre c'est un homme. Et en même temps, on ose prétendre que le ciel et les choses les plus divines, parmi les phénomènes visibles, sont le produit spontané du hasard et que leur cause n'est pas du tout analogue à celle qui produit les animaux et les plantes. Paragraphe 9. Mais même en admettant qu'il en soit ainsi, un tel sujet, pris à un tel point de vue, mérite assurément qu'on s'y arrête, et il est bon d'en parler quelque peu, car outre que cette opinion est absurde à bien d'autres égards, ce qu'il y a de plus absurde encore, c'est de la soutenir quand d'ailleurs on voit soi-même que rien dans le ciel ne se produit fortuitement, et que dans les phénomènes d'où l'on prétend exclure le hasard, il y a cependant beaucoup de choses qui sont produites par lui. Or, on devrait, à ce qu'il semble, se former une opinion précisément contraire. Paragraphe 10. Enfin, il y a des philosophes qui, tout en faisant du hasard une cause, le regardent comme impénétrable à l'intelligence de l'homme, en tant que c'est quelque chose de divin et de réservé aux esprits et aux démons. Paragraphe 11. Ainsi donc, il nous faut étudier ce que c'est que le hasard et le spontané. Il nous faut voir si c'est une seule et même chose ou des choses distinctes, et enfin, comment il rentre dans les causes que nous avons reconnues et déterminées.